Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Au lendemain de la messe d'inauguration de son pontificat, le pape Léon XIV a reçu dans la matinée de lundi plusieurs personnalités et délégations, dont des délégations œcuméniques et interreligieuses qui étaient présentes dimanche à la messe. Occasion de rappeler les efforts considérables déployés par le pape François en faveur du dialogue interreligieux et d'appeler à la construction des ponts. Les dialogues interreligieux dont le Sénégal se reconnaît comme un modèle. Vous écouterez à ce sujet le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a conduit la délégation du Sénégal au Vatican pour la messe du début du pontificat de Léon XIV. Une messe célébrée en Guinée pour les pontificats du nouveau pape. Un conflit entre agriculteurs et éleveurs fait une trentaine de morts au Tchad dans les diocèses de Moundou. Vous suivrez cela dans l'actualité de l'Église. Des violences touchant des agriculteurs au Nigeria également. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique en Afrique qui nous conduira aussi en Tanzanie. L'intelligence artificielle, un défi pour l'Église et l'Afrique. Carmel Bissoué, spécialiste en transformation numérique, nous entretiendra à ce sujet à la fin de cette édition. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Au lendemain de la messe d'inauguration de son pontificat, Léon XIV a eu un agenda bien chargé. Lundi dans la matinée, le pape a reçu plusieurs personnalités et délégations. La plupart d'entre elles étaient présentes à la messe des dimanches. Au nombre de ces audiences, le Saint-Père a reçu les vice-présidents des États-Unis d'Amérique, James David Vance, et sa délégation, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, le président de la Colombie, Gustavo Pietro, le premier ministre australien Anthony Albanese, le président de la Géorgie, Mikhail Kavelashvili, ainsi qu'une délégation du diocèse de Chiclayo au Pérou, où Léon XIV fut évêque. Avec les personnalités politiques, l'occasion a été saisie pour rappeler les bonnes relations diplomatiques qui lient les Saint-Sièges avec ses partenaires. Il a aussi été souligné les efforts à fournir pour la paix et le développement dans le monde. Lundi dans la matinée, Léon XIV a aussi reçu des délégations œcuméniques et interreligieuses qui étaient présentes dimanche à la messe d'inauguration de son pontificat. Parmi les représentants des autres religions, outre la communauté juive, il y avait aussi des représentants musulmans, hindous, bouddhistes, sikhs, zoroastriens et jaïns. L'occasion pour le Saint-Père de rappeler les efforts considérables déployés par le pape François en matière du dialogue interreligieux et d'appeler à la construction des ponts, mais aussi de dire non à la guerre et oui à la paix. Les comptes rendus d'Augustine Asta.
C'est vraiment dans les pas du pape François que Léon XIV s'est situé lors de cette audience. Le pape de Fratelli Tutti, a-t-il rappelé, a promu tant le chemin œcuménique que le dialogue interreligieux. Et l'a fait surtout en cultivant les relations interpersonnelles de manière à ce que, sans rien enlever aux liens ecclésiaux, l'aspect humain de la rencontre soit toujours valorisé. Le pape américain a souligné dans la foulée que le premier concile œcuménique de Nicée, dont le 1700e anniversaire est célébré cette année, représente une étape fondamentale dans l'élaboration du credo commun à toutes les églises et communautés ecclésiales. L'unité a toujours été une préoccupation constante pour moi, a rappelé le nouveau pape, une unité qui se retrouve dans la devise qu'il s'est choisie, tirée de saint Augustin. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à prier et à travailler ensemble pour atteindre pas à pas ce but qui est et reste l'œuvre de l'Esprit-Saint, a-t-il exhorté. S'adressant donc à tous les représentants des autres traditions religieuses, Léon XIV s'est félicité de leur présence à cette audience. Le pontife romain a profité de l'occasion pour réaffirmer en particulier l'importance du dialogue théologique entre chrétiens et juifs, même en ces temps difficiles marqués par des conflits et des malentendus. Même regard bienveillant vis-à-vis des musulmans, Léon XIV a rappelé les fruits de la déclaration sur la fraternité humaine signée à Abu Dhabi. Le pape a ainsi fait part de sa gratitude aux représentants des autres religions pour leur contribution à la paix.
Augustine Asta. Parlant d'œcuménisme et du dialogue interreligieux, le Sénégal est un modèle où le dialogue interreligieux est consolidé. C'est ce qu'a affirmé le général Jean-Baptiste Tine, ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il a conduit la délégation qui a représenté ce pays de l'Afrique de l'Ouest à la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV.
La première impression que laisse le pape Léon XIV est celle d'une grande humilité pastorale. Il a déclaré hier, je vais essayer de citer de mémoire, « J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère qui veut être le serviteur de votre foi et de votre joie. » Je pense que c'était ça. La messe était riche de sens, portée par un message d'espoir, appuyé par des références bibliques précises qui rassurent quant à la poursuite de la mission pontificale. Le pape adressait un état des lieux complet d'une Église au cœur d'un monde très troublé, appelée à trouver sa voie, surtout dans la contribution au renforcement de la foi, à la préservation de relations humaines saines et à la promotion du développement économique, qui sont les seuls garants d'une stabilité durable. La réception de toutes les délégations témoigne d'une volonté de proximité avec les partenaires et les fidèles de l'Église, ainsi que d'une ouverture vers toutes les composantes des sociétés humaines. Cette célébration, vraiment inclusive, a incarné les promesses d'un ministère engagé et résolu pour l'épanouissement de la foi chrétienne en parfaite harmonie avec les autres religions révélées au service d'un monde meilleur. Donc notre pays est reconnu comme un modèle de dialogue interreligieux. Sur le plan stratégique, l'Église est solidement implantée au Sénégal depuis très longtemps.
Le général Jean-Baptiste Tine, ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV a été très suivie à travers le monde. Nadège, une laïque du diocèse de Créteil en France, membre de la communauté des enfants des Padres Pio, a souligné le message fort du pape dans son homélie.
Je suis très heureuse d'avoir pu suivre en direct la messe d'inauguration du pontificat du pape. Et il y aurait tant de choses à dire au sujet donc de cette belle célébration. Mais je veux pouvoir reprendre quelques passages très brièvement de l'homélie. Il a rappelé les deux axes à la base qui constituent la mission de Saint-Pierre, l'amour et l'unité. Il n'a cessé de répéter l'amour et l'unité. Aujourd'hui, effectivement, l'amour est un grand défi de notre temps. Il souligne les divisions, les blessures, la peur de l'autre. Il souligne les guerres. Et effectivement, nous le voyons au quotidien. Nous vivons dans un monde vraiment qui est troublé. Et aujourd'hui, vraiment, le message qu'il porte, pour moi, est tellement vrai, tellement d'actualité, lorsqu'il vient nous rappeler que c'est l'heure de l'amour. Laissons tomber nos querelles. Rappelons-nous que c'est l'amour qui doit être le fondement de toutes nos relations. Même si nous le savons, nous avons à le vivre au quotidien. Nous avons à nous le rappeler, même quand les vents sont contraires. Et ils viennent encore nous dire que la mission, c'est de conserver le riche héritage de la foi chrétienne tout en répondant aux défis actuels. Et je veux dire une dernière chose, c'est lorsque tout le monde se faisait la paix du Christ au cours de la célébration et que je voyais les officiels, je me suis dit, Seigneur, que cette paix soit réelle, que l'esprit de paix envahisse chacun de nos cœurs.
Nadège, une laïque du diocèse de Créteil en France, membre de la communauté des enfants des Padres Pio. Au terme de leur assemblée générale qui s'est tenue le 17 mai à Conakry, les évêques de Guinée ont célébré une messe d'action des grâces pour le pontificat du pape Léon XIV. La messe a été présidée par le nonce apostolique en Guinée et au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Emembe Mambe, à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Dans son homélie, le nonce a souligné les priorités du nouveau pape et la continuité de l'Église. Il a aussi rappelé la célébration des 150 ans de l'évangélisation de la Guinée, Johannita Scolastique.
Au terme de leur assemblée générale, les évêques de Guinée ont célébré la messe d'action de grâce pour le pontificat du pape Léon XIV. Entouré des fidèles venus des différentes paroisses, cette messe a été présidée par le nonce apostolique en Guinée et au Mali, Monseigneur Jean-Sylvain Émier Mambé, à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Il a dans son homélie souligné les priorités du nouveau pape et la continuité de l'Église. Inscrit dans la dynamique de la célébration des 150 ans de l'évangélisation de la Guinée, l'évêque a
L'Église continuera sa mission d'être le phare qui éclaire les nuits du monde. Nous sommes convaincus que le grand événement religieux qui approche, à savoir la célébration en 2027 des 150 ans de l'évangélisation de ce pays, pourrait constituer une occasion propice pour une visite du Saint-Père, le pape Léon XIV, en Guinée.
Jonita Scolastique, Conakry, pour Radio Vatican.
Au Tchad, un conflit intervenu entre agriculteurs et éleveurs a causé au moins 35 morts et 6 blessés dans les diocèses de Moundou. Le rapport a été présenté le 15 mai dernier. Édouard Takadji.
35 morts et 6 blessés, c'est le bilan présenté par le gouvernement tchadien suite à un affrontement violent ayant opposé les agriculteurs et éleveurs dans le village Mandakaou, une localité située à 18 km Bainamar, dans la province du Logon occidental, dans le diocèse de Moundou. Lesquels communiqués du gouvernement informent qu'une délégation gouvernementale est sur le terrain pour évaluer l'ampleur du drame puis apporter le soutien nécessaire aux populations affectés. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, exprime sa compassion aux blessés et les assure de tout son soutien avant de condamner avec la plus grande fermeté ces actes barbares. Des chiffres contredits dans un autre communiqué de presse par l'Alliance tchadienne universelle pour la défense des droits de l'homme qui parle de 41 morts et de plusieurs blessés. Elle condamne avec la dernière énergie cette tuerie sauvage et exige des autorités d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'Alliance tchadienne universelle pour la défense des droits de l'homme se félicite enfin de l'arrestation des présumés auteurs et attend leur traduction immédiate devant les juridictions compétentes. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs deviennent de plus en plus récurrents ces dernières années, faisant le plus souvent de nombreuses victimes dans beaucoup de provinces sans une solution définitive. Édouard Takadji Ndjamena pour Radio Vatican.
Ouvrons la page consacrée à l'actualité sociale et politique africaine par une autre violence touchant des agriculteurs. Au Nigeria voisin, cette fois-ci, 15 agriculteurs ont été tués par des membres des gangs criminels dans l'état de Kebbi, dans le nord-ouest de ce pays, ont indiqué dimanche les services des secours et les gouvernements locaux. L'attaque a eu lieu dans la localité de Wadje, jeudi, vers 13h30, faisant 15 morts et 3 blessés, a déclaré Aliou Kafindangi, un responsable de l'Agence nationale de gestion des urgences, bilan confirmé par les gouvernements de l'État de Kebbi dans un communiqué dimanche. Le chef de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, qui risque la peine de mort pour une affaire de trahison, a été présenté lundi devant un tribunal de Dar es Salaam où il est apparu combatif, ont constaté des témoins. « Ne vous inquiétez pas, nous parviendrons à nos fins », a-t-il lancé en Swahili au public une fois arrivé à la salle d'audience, non menotté mais entouré de nombreux policiers. « Nous irons bien », a encore dit M. Lissu, tandis que des partisans présents scandaient « Nous t'aimons ». Tundu Lissu, qui avait survécu à une tentative d'assassinat en septembre 2017, a été inculpé en avril pour trahison, une accusation qualifiée de politique par ses partisans pour laquelle il est passible de la peine capitale. La visite du président Cyril Ramaphosa à Washington cette semaine pour rencontrer Donald Trump a pour objectif premier de sécuriser les liens commerciaux entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, a déclaré lundi un ministre de la délégation sud-africaine. L'une des priorités de cette visite est de protéger les emplois, accroître l'économie et élargir les opportunités d'emploi, a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen. Au-delà des droits des douanes, les frictions sont nombreuses entre les deux pays. Au moins 14 personnes ont été tuées dimanche dans des bombardements des paramilitaires des forces de soutien rapide sur les camps des déplacés d'Abu Chouk dans la région du Darfour dans l'ouest du Soudan, a indiqué un groupe de secouristes. Les bombardements imputés aux paramilitaires a touché le marché et d'autres parties à l'intérieur du camp, y compris des mosquées et des habitations proches des infrastructures publiques, a précisé la cellule d'urgence dans un communiqué. L'intelligence artificielle, un défi pour notre temps, un défi pour l'Église d'aujourd'hui. Le pape Léon XIV a clairement mis en évidence cette urgence dès sa première audience officielle avec les collèges des cardinaux au lendemain de son élection. Cette préoccupation rejoint celle des chercheurs africains qui réfléchissent sur la possibilité de produire des intelligences artificielles adaptées au contexte et réalités africains. C'était également l'objet du récent sommet sur l'intelligence artificielle au Rwanda, auquel Carmel Bissoué, spécialiste en transformation numérique, a pris part. Inégalité, fracture numérique, éthique et connectivité, tels sont les problèmes, les défis majeurs que doit relever l'intelligence artificielle en Afrique, nous dit Bissoué.
L'Afrique a des problèmes d'inégalité. Il n'y a pas un accès équitable à l'énergie électrique, par exemple. Il n'y a pas un accès équitable à Internet. L'intelligence artificielle qui doit être construite pour l'Afrique doit pouvoir répondre à ces problématiques-là d'énergie, de connectivité et de langue.
L'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu en matière d'IA et rester souveraine face aux géants mondiaux?
Le potentiel que représente l'intelligence artificielle en Afrique. C'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir se positionner dessus, d'arrêter de subir ce que les autres font et de pouvoir proposer également des solutions d'intelligence artificielle qui viendraient résoudre des problèmes propres aux Africains que seuls les Africains maîtrisent et pas les Européens, pas les Américains ni les Chinois. On a plusieurs acteurs qui proposent déjà des solutions sur la base de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle proche des réalités des populations et qui pourra résoudre le problème de la fracture numérique, de l'adoption, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Pouvoir adopter l'intelligence artificielle, c'est parce qu'une intelligence artificielle est faite pour un public bien précis et pas des Africains. Donc, il y a des initiatives en Afrique pour avoir des algorithmes qui n'intègrent pas des biais humains. Un algorithme est développé par un humain, un algorithme traduit et renvoie à la réalité, à la philosophie de la personne qui développe cette intelligence artificielle. Il y a une guerre technologique aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Ces intelligences artificielles-là traduisent les réalités chinoises et ne prennent pas en compte les spécificités africaines, tout comme l'intelligence artificielle développée par les États-Unis prend en compte la manière dont les États-Unis voient le monde et les réalités américaines, quoi. Donc, il serait bon aujourd'hui que l'Afrique se positionne également sur ces sujets-là pour pouvoir dire également comment elle voit le monde, comment est-ce qu'elle l'appréhende, comment elle le comprend. Et ça passe également par ses langues nationales.
Que faire pour que l'IA ne puisse pas creuser les inégalités entre les populations?
C'est déjà d'avoir une IA au service des populations qu'elle va servir. Donc c'est une IA, comme on aime à le dire, une IA développée par les Africains pour des Africains. La personne qui développe l'intelligence artificielle a en tête le public qu'il va servir. Il tient déjà en compte des réalités de ces Africains-là. Donc l'IA pourrait très bien permettre de réduire des inégalités, de permettre à des gens qui sont dans des zones reculées d'apprendre, de se former dans leur langue nationale sans pouvoir apprendre une autre langue pour pouvoir y étudier. Donc ça, c'est vraiment un gros apport que l'intelligence artificielle représente pour l'Afrique et pour le développement de l'Afrique. Donc c'est une IA qui pourrait intégrer, qui serait inclusive, qui serait multilingue. C'est une IA qui devrait garantir aussi le côté éthique et équité. Une intelligence artificielle qui n'aggrave pas les inégalités, qui est proche des populations, qui comprend les besoins des populations et qui, à la fin de la journée, serait adoptée par les populations, comme on a vu avec le Mobile Money, où on a vu une solution qui a été pensée pour les Africains et qui a permis de réduire, par exemple, l'inclusion financière en Afrique.
C'était Carmel Bissoué, spécialiste en transformation numérique et responsable marketing Afrique centrale des ST Digital, un service numérique panafricain implanté en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il était interrogé par Augustine Asta.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.